Mystérie, éveillez votre curiosité.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode Mystérie. Épisode numéro 7 avec un sujet particulièrement mystique. Merci à vous qui vous apprêtez à l'écouter. Je suis ravi de partager ces prochaines minutes en votre compagnie. Je m'appelle Stanislas Delorme, je suis consultant intuitif et je propose des consultations de voyance autour des arts divinatoires. Alors vous le savez, Mystérie est un rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches dès 18h. Retrouvez un nouveau podcast autour de la voyance, de l'astrologie, des arts divinatoires et des phénomènes paranormaux. En tant que praticien, je décrypte pour vous le monde ésotérique. Alors Mystérie est disponible gratuitement à partir de nombreuses plateformes d'écoute comme par exemple Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer. N'hésitez pas à vous abonner à Mystérie sur l'une de ces plateformes afin de ne manquer aucun podcast. Alors l'épisode de cette semaine porte sur François Mitterrand. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de sa carrière politique, mais bien de son amour pour l'ésotérisme. Si vous ne le savez pas encore, le spiritisme avait une grande place importante dans la vie de François Mitterrand. Le 31 décembre 1994, le président annonçait ses vœux aux Français de la manière suivante.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
En effet, François Mitterrand était atteint d'un cancer de la prostate. Il savait depuis quelque temps déjà qu'il était condamné. Au regard des grands travaux qu'il annonçait dès le jour de son investiture en 1981, on peut penser qu'il voulut marquer son passage sur Terre par une symbolique forte. Sa psychologue et confidente, Marie Henzel, dans son ouvrage « Croire aux forces de l'esprit », parlera de l'ancien président en ces mots. « Je pense qu'il était obsédé de laisser une trace. Il était fasciné par les mythologies égyptiennes, toutes les mythologies qui montrent que la mort est une transformation l'intéressaient. » Eh bien oui, l'ex-président avait bien et bel un côté mystique qu'il ne dissimulait pas. Je vous propose donc d'analyser plus en détail le personnage de François Mitterrand à travers le décryptage des nombreux monuments qu'il laissa derrière lui.
Mystérie, éveillez votre curiosité.
Alors Mitterrand était à bien des égards un président hors du commun. Il lui arrivait par exemple de poser sa main sur une pierre en restant immobile et silencieux pour en ressentir l'énergie. C'était en effet un homme profondément relié à la terre comme il disait lui-même. Ce besoin viscéral de connecter le monde physique et spirituel l'accompagna tout au long de sa carrière politique. Très jeune, il fut bercé par la culture catholique et de ses enseignements. Cela joua grandement sur sa vision très spirituelle du monde. Le président le reconnaissait volontiers. Mais en grandissant, il détourna peu à peu du christianisme pour adopter une croyance plus ouverte. Devenu déiste, il admettait l'existence d'un dieu, ou tout du moins d'une force supérieure ordonnant toute chose. Il avait aussi ce désir de se relier aux forces spirituelles. Ce désir, il l'assouvit entre autres grâce aux nombreux travaux d'architecture qu'il ordonna durant ses deux mandats consécutifs. Le premier ne fut autre que la fameuse pyramide du Louvre en 1983. Pour sa création, il n'a pas tenu compte des procédures juridiques en vigueur et sollicita l'aide de l'architecte de son choix. Si l'entrée qui garde le musée est aujourd'hui reconnue comme symbole parisien, sa construction fut vivement critiquée à l'époque. En choisissant la forme bien singulière d'une pyramide, François Mitterrand voulut évidemment faire un parallèle avec les constructions de l'Égypte antique, une période de l'histoire qui l'obsédait. Mais contrairement aux pyramides égyptiennes qui n'ont pas pour but d'être pénétrées, celle du Louvre a une entrée. C'est comme si Mitterrand avait voulu ouvrir l'accès à un lieu empli de spiritualité et même à la transcendance. En effet, rappelons que les pyramides sont des tombeaux destinés à diriger l'âme du pharaon vers le sanctuaire divin. On peut également imaginer qu'avec cette entrée, Mitterrand avait comme idée de connecter le monde matériel avec le monde spirituel. Et quel meilleur lien que l'art rempli de symbolique pour cela ? Dans un monde qui prête de moins en moins attention aux signaux de l'esprit, l'ancien président a sans doute voulu apporter un peu de spiritualité dans le quotidien de ses concitoyens. Cela ne s'arrête pas là. Le monument recèle encore de nombreux symboles plus ou moins dissimulés. Par exemple, on peut citer les bassins qui entourent la pyramide, dont la disposition pourrait représenter une carte astrologique, ou encore les trois petites pyramides proches de l'entrée faisant écho au triangle maçonnique. Mais l'un des symboles les plus frappants n'est autre que la pyramide inversée à l'intérieur même du musée. Celle-ci pointe vers le bas en direction d'une autre pyramide en pierre partant du sol. Les extrémités de ces dernières se rencontrent mais sans se toucher. Cela symboliserait le lien invisible entre le ciel et la terre. À côté du Louvre, une œuvre commandée par le ministère de la Culture, toujours sur la demande de François Mitterrand, déroute par son contraste. Il s'agit des deux plateaux, plus communément appelés les colonnes de Buren en référence à son constructeur. Celle-ci est composée de 260 colonnes de marbre blanc et de noir réparties sur un damier. Les colonnes font toutes la même hauteur, or certaines sont plus ou moins enfoncées dans le sol. L'œuvre tire d'ailleurs son nom de cette dualité. Le premier plateau représente la face visible des colonnes et le second cache la partie enfouie de ces dernières. Une particularité intrigante de l'œuvre est que sous terre, au niveau du sous-plateau, une rivière coule à la base de ces colonnes. Là encore, plusieurs interprétations prêtées à cette œuvre sont grenues. Déjà, on remarque une fois le lien établi entre le ciel et la terre. À nouveau, cela peut représenter une connexion entre le monde ésotérique et celui des cieux avec le monde matériel et physique, la terre. Mais il y a d'autres interprétations que j'aime particulièrement. La première veut que Daniel Buren, le maître de l'œuvre de confession judaïque, a voulu représenter un temple en ruine. La superposition des deux étages avec les rivières évoquerait alors les deux fleuves de la tradition hébraïque. Le cours d'eau symboliserait les grâces et les influences célestes se déversant verticalement sur le monde. La 16e colonne, la seule qui soit littéralement enfouie, représenterait ainsi la colonne du puits donnant accès à cette rivière divine. La seconde interprétation se base sur le monument Chichen Itza, au Mexique. Là-bas, on y retrouve également une pyramide, celle de Kukulcan, avec à côté un temple appelé le Temple des Mille Colonnes. Et devinez ce qui se trouve sous ce temple ? Eh bien oui, une rivière. Cette similarité ne pourrait être qu'une coïncidence. Mais en y regardant de plus près, il s'avère que l'œuvre des deux plateaux présente des chiffres bien intrigants. Eh bien oui, elle est composée de 260 colonnes, exactement le jour de formant une année dans le calendrier maya. De plus, ce calendrier comprend au total 13 mois et 20 jours et les dimensions des colonnes sont de 13 par 20. Un monument bien moins impressionnant que les deux précédents, je vous l'accorde, est le monument des droits de l'homme au Champ de Mars. Celui-ci ne fut pas commandé par François Mitterrand, mais par la ville de Paris. Or, l'homme politique fut très impliqué dans sa construction. Si ce monument avait pour vocation première de célébrer le bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on peut clairement identifier qu'il s'agit d'une bâtisse franc-maçonnique. En effet, les symboles qui le prouvent sont assez explicites. Premièrement, le monument est surplombé par deux colonnes typiques de la tradition maçonnique. Deuxièmement, de nombreux reliefs habillent le monument. Parmi eux, nous pouvons citer le delta lumineux avec en son centre l'œil maçonnique au-dessus de la Déclaration des droits de l'homme. Les trois points en forme de triangle qui composent la signature des francs-maçons, mais surtout un pentagramme formé d'un compas et d'une équerre qui sont là encore deux symboles francs-maçons. On pourrait d'ailleurs plus parler de temple que de monument. Censé rendre hommage à la citoyenneté, l'accès de ce dernier est protégé par une grande porte en bronze, le rendant inaccessible à nous autres citoyens. Cela peut symboliser le fossé qui sépare le peuple ordinaire des francs-maçons. À l'intérieur du monument, un oculus fait à nouveau office de passerelle avec les cieux. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi l'implication de François Mitterrand dans la construction du monument a donné lieu à tant de références maçonniques. Cela est tout simplement dû au lien étroit qu'entretenait l'homme politique avec cette coopération de bâtisseurs si mystérieuse. Alors Mitterrand n'était pas franc-maçon, enfin du moins pas dans la version officielle de l'histoire. Or, il avait des connaissances, des rites et des pratiques de l'organisation et il entretenait des liens étroits avec certains de ses membres. Nul doute que l'ancien président éprouvait une certaine fascination pour eux. Avait-il lui-même été franc-maçon dans une ancienne vie ? Je ne peux pas vous faire un épisode sur François Mitterrand sans vous parler de son projet le plus ambitieux, la Bibliothèque nationale de France, aussi appelée Bibliothèque Mitterrand. Elle est composée de 4 tours en équerre, peut-être pour représenter un livre ouvert. Ces dernières savamment nommées la Tour des Lois, la Tour du Nombre, la Tour du Temple et la Tour des Lettres. À L4, elle offre plus de 75 000 m² dédiés à la connaissance. Les tours encerclent un écosystème forestier composé de 130 pins, comme pour laisser place à un peu de nature au sein de la métropole tentaculaire qu'est devenue Paris. Celle-ci est d'ailleurs alignée avec l'Arche de la Défense, autre monument ayant vu le jour sous l'impulsion de François Mitterrand. Alors, l'Arche de la Défense se situe au bout de l'axe de Paris, cet axe passant par la pyramide du Louvre, le Jardin des Tuileries, l'Obélix de la Concorde, l'avenue des Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe et le pont Neuilly pour enfin se terminer par cette fameuse arche. À l'origine, appelée l'Arche de la Fraternité, cette immense bâtisse de verre, marbre et granit recèle, elle aussi, quelques petits mystères. Alors si Mitterrand décida de placer un monument à chaque extrémité de cet axe historique, ce n'est pas pour bien sûr sans aucune raison. Dans la droite lignée de Napoléon et de Louis XVI, il décida d'enrichir l'axe, peut-être pour se hisser au même rang de ses personnages historiques. Nous verrons avec l'analyse du monument suivant que François Mitterrand avait parfois des tendances un peu mégalomanes. Alors le plus surprenant reste tout de même ce qui se trouve au sommet de l'Arche. Il s'agit d'une œuvre réalisée par Jean-Pierre Reynaud portant le doux nom de carte du ciel. Comme sa désignation le laisse entendre, cette carte représente le cercle du zodiaque et donc les principales constellations cosmos visibles par l'homme à la tombée de la nuit. L'artiste s'exprima en affirmant que ce projet était fait pour le ciel et non pour le public. Une vision un peu étrange des choses, mais qui correspond tout à fait avec la volonté de l'ancien président. La dernière œuvre dont je souhaitais vous parler est moins spectaculaire, mais aussi moins connue que toutes les autres. Sur Internet, peu d'articles mentionnent. Les photos la mettant en avant sont rares et les spécialistes se refusent à l'analyser. Le mystère reste donc entier. Créée par le sculpteur Carelzin, par ordre de notre cher François Mitterrand, l'œuvre s'intitule « Barque solaire ». Trônant au sein des jardins du château de Rambouillet, cette sculpture représente un homme nu sur une barque scrutant l'horizon alors qu'il semble naviguer vers l'inconnu. Les traits de cet homme ressemblent étrangement à ceux de François Mitterrand lui-même. Quant à la barque, elle symbolise le véhicule utilisé par le dieu égyptien Ra afin d'effectuer son tour de la Terre. Cette divinité, incarnant le soleil, commencerait son voyage de l'est vers l'ouest pour ensuite traverser le monde souterrain durant la nuit, toujours au moyen de cette barque solaire. De telles barques étaient également disposées dans les tombeaux des pharaons pour leur permettre à ces derniers de traverser le monde des morts et de se réincarner en divinité. Alors, lors de la création de cette œuvre, le regretté François Mitterrand se savait déjà proche de la fin. Sa construction était-elle le fruit d'une lubie mégalomane assumée ? Mitterrand se voyait-il devenir un dieu de l'au-delà ou se cachait-il une symbolique encore plus profonde ? Et si cette sculpture signifiait simplement que François Mitterrand acceptait le sort qui lui était réservé et qu'il était prêt à faire le grand voyage en restant droit, en digne, même dans l'autre monde ? Alors peu importe que l'on soit en accord avec l'idéologie politique de François Mitterrand, personne ne peut nier la part de spiritisme qui habitait cet homme. Obsédé par l'Égypte antique, fasciné par la franc-maçonnerie, possédé par des forces ésotériques, décidément, c'est un personnage bien singulier, assez différent de l'image que l'on peut se faire d'un président de la République. Grâce à sa politique de grands travaux, il laissa bien sûr que des constructions à la ville de Paris. Son héritage posthume pourrait plutôt se résumer à un message, peut-être même d'espoir, que chacun peut interpréter à sa manière, mais qui dans tous les cas nous force à établir un lien avec notre propre spiritualité. Pour conclure cet épisode, je vous laisserai avec ces paroles prononcées par François Mitterrand lors d'un entretien avec son amie Marie Enzel. « Je suis fondamental un homme de terre et je sais au fond de moi que bien des choses qui ne s'expliquent pas viennent de ce pont que certains savent faire entre le corps et leur esprit.
Mystérie, éveillez votre curiosité.
Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour un nouvel épisode Mystérie. D'ici là, prenez soin de vous.